Nous sommes là ce matin pour continuer notre enseignement sur le passage de Deutéronome chapitre 28 verset 13 qui déclare que tu seras la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Et nous croyons que cette parole vient de Dieu. Et si elle vient de Dieu, nous pouvons légitimement en parler et nous pouvons nous en approprier et dire, Seigneur, ce que tu as déclaré toi-même doit se réaliser dans ma vie puisque tu annonces que je serai la tête et non la queue. Et sur la base de ce que tu déclares, je vais m'engager à être la tête. Et dimanche passé, nous avons insisté sur le fait que pour être la tête, donc avoir l'esprit d'excellence, avoir la réussite, aller de l'avant, suppose que nos vies aient été restaurées. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai annoncé la veille de prière. Parce que si nos vies ne sont pas restaurées, si nous sommes dans des situations difficiles et qu'on a du mal à s'en sortir, on ne peut pas espérer être la tête. Ce qu'on doit d'abord chercher, c'est comment sortir de là où nous sommes. Et j'ai rendu une partie de mon témoignage et j'ai dit que Dieu est capable de restaurer nos vies. On a insisté sur le passage qui se trouve dans Joël chapitre 25, chapitre 2, verset 25, dans lequel la Bible déclare que je vous remplacerai les années qu'on dévorait, le sauterelle, les criquets et les grillons. Et effectivement, je peux voir dans ta vie que Dieu a restauré beaucoup de domaines. Je peux voir dans ma vie que des aspects de ma vie ont été restaurés. Aujourd'hui, on va continuer sur la même lancée, mais on va aborder l'un des piliers, ou l'un des principes qui permettent d'être la tête. On va aborder l'aspect lié à la vision. Nous commençons donc le sous-thème sur la vision. Et dans 3-4 semaines plus tard, on verra un sous-thème qui est lié à la loyauté. Ce qu'on appelle la loyauté, la fidélité, comment apprendre l'excellence humaine. Donc ce matin et dimanche prochain, et probablement dimanche prochain, nous allons traiter de la vision. Comment avoir une bonne vision? C'est parce qu'on a une bonne vision qu'on peut être la tête. Et donc je commence directement. Alors qu'est-ce que la vision? La vision, bien entendu, est liée à la vue. Mais je prendrai ce thème dans le sens figuré en disant que la vision, c'est une manière de voir. Avoir la vision de la réussite, la vision de la santé, la vision d'une vie heureuse, c'est une manière de voir. Mais c'est aussi une manière de concevoir et une manière de comprendre. Donc dans la vision, au sens figuré du thème, ce n'est pas seulement avoir une belle vue. Ah, j'ai une belle vision sur, une bonne belle vision sur la lagune. Une belle vision sur ceci, où j'ai une bonne vision, c'est-à-dire que mes deux yeux voient clair, je n'ai pas de problème, avec l'ophtalmologie, c'est pas ça que je parle. Ici, dans le sens figuré, dans le sens spirituel du terme. Avoir une bonne vision, avoir la vision, c'est une manière de voir. Quelle est la vision de ma vie? Ça signifie quelle est la manière dont je vois la vie. Je conçois les choses, dans la manière de concevoir, la manière de comprendre quelque chose. Donc, en clair, la vision, c'est la conception et la compréhension des choses ou de la vie. Quand on dit une bonne vision, il faut avoir la vision des choses. C'est la compréhension, avoir une bonne compréhension, avoir une bonne conception des choses. Et c'est capital. Notre succès, notre échec dépend de la vision, dépend de la manière dont nous comprenons les choses. Et quand on parle de visionnaire, c'est l'intuition de l'avenir. C'est une personne qui a l'intuition de l'avenir. Une personne qui à l'anticipation de l'avenir. On dirait que telle personne a été un visionnaire, elle anticipait l'avenir. Sans vouloir faire la politique, quand on voit à Yamoussoukro, à Abidjan, on voit les rues. Vous voyez comment les rues sont larges. Quelqu'un a dit, certainement, Yamoussoukro va devenir une très grande ville. Peut-être le fondateur, enfin, le concepteur Yamoussoukro a-t-il pensé que Yamoussoukro serait la capitale. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une grande rue. C'est pas comme Abidjan qui est encombré. C'est vraiment très large. On dit la personne a été visionnaire. On dit qu'il faut être visionnaire. C'est pas vision dans le sens mystique du terme, mais vision dans le sens que on a l'intuition de l'avenir. Pour être la tête, il est bien d'avoir une bonne manière de comprendre les choses, une bonne manière de concevoir les choses. En clair, ce que vous concevez en vous-même, la manière dont vous comprenez la vie, les choses de la vie, va déterminer la distance que vous allez parcourir et faire en sorte que vous pouvez atteindre un haut niveau, ou un niveau moyen, ou un niveau très bas. Je pourrais dire niveau bas, moyen et haut. En fait, personne n'est a priori condamné à l'échec et condamné à mourir. Sinon, Dieu se contredirait. Puisque Dieu dit, tu seras en haut et non en bas. Tu seras la tête et non la queue. Alors, donc, quand Dieu donne ses paroles, ça veut dire que c'est possible qu'on soit effectivement la tête, qu'on soit effectivement en haut et jamais en bas. Maintenant, quel est le mécanisme? Quels sont les moyens, les principes? Regardez, en toute chose, il y a un mécanisme. En toute chose, il existe un mécanismes, il existe des moyens, il existe des principes. Et je dirais qu'on n'est pas privé par hasard. À l'époque, il y a quelques années en arrière, il y avait une publicité qui passait à la télévision qu'on appelait Nestlé, sans plus aucune. Hein. Nestlé, ce qu'on dit, on n'est pas premié par hasard. Moi, j'ai fait le cyclation de Bergerville, c'était à l'internat. Et il y a un des noms qu'on appelait, on n'est pas premier par hasard, parce qu'il était toujours le premier à être au réfectoire. Quand on somme, il est le premier à se pointer, parce que c'est vrai, quand tu es le premier à te pointer, tu te sers copieusement. Surtout quand il y avait à l'époque, il y avait checker avec poisson, avec yaourt, donc il se sert vraiment, il prend le gros poisson. On lui disait, on n'est pas premier par hasard. En fait, on n'est pas premier par hasard. Je suis en train de capter votre attention avant d'entrer dans le vif du sujet. Captez votre attention. Chers frères et chers sœurs, comment nous concevons la vie? À un moment donné, vous avez pensé qu'il faut la psychologie. Il ne faut pas la psychologie. La plus grande psychologie se trouve ici. La plus grande psychologie se trouve ici. La Bible est le plus grand de psychologie, de thérapeutique, de... Enfin, toutes les géologies que vous voulez se trouvent là. Et je peux vous dire que des penseurs, des psychologues sont la Bible et ils découvrent des principes, mais tellement importants. Et ils écrivent des livres qui vendent à des millions d'exemplaires. Ils s'enrichissent avec leurs livres, alors qu'en réalité, ils ont tout puisé dans la Bible. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu prend un homme comme Abraham, on va arriver à ça plus tard, peut-être dimanche prochain ou sur prochain. Mais je suis en train d'aller dans le cœur de ce thème-là, sur la vision qui nous donne d'être la tête. Abraham était sans enfant, au chapitre 12. Et après, Dieu fait sortir Abraham. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, regarde le pays. Tout ce que tes yeux voient, je te le donnerai. Tu dis pas amen? Tout ce que tes yeux vont voir, tout ce que tes yeux voient, je te le donnerai. Dieu est en train d'amener Abraham à être un homme de vision. Est-ce que Dieu s'est arrêté là? Non. Pourquoi, à votre avis, Dieu prend Abraham, il lui dit, lève tes yeux un soir. Et puis, qu'est-ce qu'il lui dit? Regarde le ciel. Et puis, fais quoi? Compte les étoiles. Il a dit, si tu peux les compter. Et qu'est-ce que Dieu ajoute? Qu'est-ce que Dieu ajoute après? Telle sera ta descendance. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici? Les psychologues trichent sur la Bible. Ils trichent sur Dieu. Dieu était en train de bouleverser tous les fondements négatifs de la vie d'Abraham. Il pensait qu'à 75 ans, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Sa femme avait été post-ménopausée. Il fallait que son imagination soit fertilisée. Quand on en parle, on pense qu'on est en train de parler de sauce. Non! Son imagination devait être fertilisée. Comme les étoiles du ciel. Et après, Dieu l'amène où? Au bord. Et dit, puis qu'est-ce que tu dis de faire quoi? De compter quoi? On peut au moins tenter de compter les étoiles. Mais comment tu peux compter le sable? Dieu dit, mets-toi à compter le sable. Il fallait que, vous voyez, si dans nos fondements, si notre manière de concevoir, de penser, d'imaginer n'est pas transformée, on ne peut pas être élevé. Vous ne dites pas amen. C'est vrai. Mais Dieu est un grand Dieu. Il le prend, il dit, regarde, compte. Si tu dis ça à quelqu'un, il va dire, tu es en train de pratiquer l'astrologie ou la sorcellerie. Dieu prend un peu, compte les étoiles, compte. 1, 2, 3. Abraham se trompe, il dit, compte encore. Il compte. Dieu dit, maintenant, regarde, imagine ta descendance sera ici. Chers frères, chers sœurs, ton succès se trouve dans ton imagination et dans ta vision. Je dis, le matin, quand tu te lèves, lève-toi avec les pensées de Dieu. J'ai arrivé aux pensées. Lève-toi avec une vision claire de ta vie. On n'a pas trois visions, on n'a qu'une seule. Et dans la vision qu'on a, il y a beaucoup d'éléments. Lève-toi avec cette vision, dors avec la vision. C'est quoi la vision? C'est la manière de voir, la manière de concevoir, la manière de comprendre les choses et de comprendre la vie. Quand tu as cette manière de comprendre, vous voyez, il fallait que la manière dont Abraham comprenne la vie soit affectée. Et quand ça a été fait, est-ce que la fin n'est pas venue? La fin est venue. Je suis en train de partager avec vous les mécanismes et les principes bibliques. Et on va aller progressivement, on aura l'occasion d'arriver sur Abraham de manière détaillée, peut-être dimanche prochain ou sur prochain. Mais c'est un aspect que j'ai introduit pour montrer que dans la vision, nous devons commencer à concevoir, à comprendre comment nous voulons être. Et qu'est-ce que nous devons être? Qu'est-ce que nous voulons avoir? Les hommes disent, vouloir c'est pouvoir. C'est vrai ou c'est faux? Je vous assure que c'est vrai. Ils ont pris ça où? Que de la Bible. Que de la Bible. Remarquez les miracles que Jésus a fait. Chaque fois qu'il te voit, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Un aveugle. Est-ce qu'on ne sait pas quelqu'un est aveugle? Un aveugle. On connaît un aveugle, non? On sait comment il marche. Comment tu peux demander à un aveugle, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Si tu n'as pas identifié clairement ce que tu veux, où tu veux aller, ce que tu veux devenir, je suis désolé, tu ne peux pas être la tête. Mais ce matin, tu sais exactement où tu veux aller. C'est extrêmement important. Il y a un orateur américain qu'on appelle Joseph Murphy.
J'ai acheté son livre à Paris. Je l'ai lu. C'est la Bible tout copiée. C'est la Bible tout copiée. Il n'a rien inventé. Il y a un autre, ce qu'on appelle Anthony Robbins. Il organise des séminaires aux États-Unis. Son livre s'appelle Pouvoir illimité. C'est la Bible tout copiée. C'est ce qu'il appelle croyance, c'est ce qu'on appelle la foi. Mais n'appelle pas ces mots parce qu'il veut concerner, il veut à la fois toucher les païens et les chrétiens. C'est la Bible tout copiée. Je ne vous choquerai pas de dire qu'il y a une science qu'on appelle la programmation neuro-linguistique. C'est une vraie science qui tient un peu sur la psychologie. Et dans cette science, il est montré que ce que tu penses et ce que tu dis influence ton comportement et peut t'arriver. Vous savez, on a créé ce qu'on appelle le détecteur de mensonges. C'est pas faux, hein? Quand tu mens, qu'est-ce qui se passe? Ton sang circule plus vite que la normale. Quand tu mens, ça sort de ta bouche et ton cœur te dit que tu es en train de mentir. Donc si on prend une machine, on va se rendre compte que tu es en train de mentir. On n'est pas détecteur de mensonges. L'homme est un être très complexe. Donc ce que nous disons, que nous concevons, peut nous influencer. Mais il n'y a rien à faire. Ça veut dire que le cerveau de l'homme est divisé en combien de parties? En deux, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud. Et dans deux parties, il y a une partie qui est de l'imagination et une partie qui est de la réflexion. Le cerveau humain est divisé en deux. Le cerveau humain, si vous voulez, bon, ne dessinez pas vos têtes, mais regardez sur internet, vous allez voir que le cerveau humain est divisé en deux. Il y a une partie qui est du domaine de la réflexion et une partie du domaine de l'imagination. Quand quelqu'un ment, il va chercher la réponse où? Dans l'imagination. Donc, quand tu suis ces deux yeux, un menteur, quand il ment, il y a un œil qui glisse vers la partie droite. Il me semble que c'est, donc il cherche une réponse dans son imagination. Il est en train de mentir. En clair, ce que nous disons est en liaison avec le cerveau. Donc, un moment donné, le cerveau te dit que tu es en train de mentir. Donc, si tu renvoies des bonnes paroles, des bonnes idées au cerveau, ton cerveau va réagir conséquemment. C'est pourquoi il faut commencer à avoir une bonne conception, une bonne compréhension de la vie. C'est la science qui a découvert ça récemment. On appelle ça la programmation neuro-linguistique. Mais on n'est pas sûr. Nous avons la meilleure programmation neuro-linguistique ici. C'est la parole de Dieu. Donc quand on parle de vision, il faut comprendre que c'est toute cette manière de comprendre qui change notre vie, qui nous permet d'atteindre une certaine hauteur. Et je le répète, on n'est pas primé par hasard. Vous ne verrez jamais quelqu'un qui domine par hasard. Si vous le demandez, vous verrez qu'il y a eu une succession de manières de comprendre. Il a fréquenté des gens qui l'ont influencé. Il a appris sur leur manière de faire. Il a dit, moi, je serai comme lui. Il s'est adapté à cela. Il a adopté et adapté son comportement, sa manière de penser, de réfléchir à son maître. Plus tard, il sera maître. Je vous dis, qu'il soit chrétien ou pas, il va le devenir. Parce que c'est du domaine du naturel. Maintenant, comment concevoir une bonne vision? C'est ça la question. Puisque la vision, c'est la manière de concevoir, de comprendre les choses ou la vie. La distance qu'on veut parcourir. Quand un athlète veut courir le marathon qui fait 42 km environ, il s'entraîne de manière conséquente. S'il veut courir 100 mètres, il s'entraîne comme quelqu'un qui fait 100 mètres. Donc en fonction de ce qu'il veut être, il s'entraîne en conséquemment. Maintenant, comment il est possible, parce que c'est là le point clé, comment il est possible que nous puissions avoir une bonne vision de la vie afin qu'on soit la tête? Je pense que c'est la question à laquelle je dois répondre maintenant et à laquelle vous attendez. Enfin, pour laquelle vous attendez une réponse. En lisant la Bible, là, je n'ai pas pris ça chez quelqu'un parce que je lis beaucoup plus la Bible que les autres livres. De temps en temps, je lis aussi pour voir après ce qu'ils disent et je fais une comparaison. Il y a une trilogie dans le succès. Une trilogie. 1. Le cœur. 2. Les pensées. 3. Les paroles. Et je vais expliquer ça attentivement. 1. Le cœur. 2. Les pensées. Et 3. Les paroles. Pour avoir une bonne vision, ou avoir une vision claire de sa vie, pour aller très loin et être la tête comme Dieu le commande, comme Dieu le recommande, comme Dieu l'ordonne, il faut avoir un bon cœur, ensuite des bonnes pensées et des bonnes paroles. Le cœur, c'est le siège de notre personnalité, de nos émotions. Le cœur dont je parle, c'est pas seulement l'organe qui bat, mais c'est là où se forme notre personnalité. Et le cœur, moi je définis le cœur comme étant une usine. Écoutez mon explication. Le cœur, c'est comme une usine. L'usine fabrique. Le cœur, c'est l'usine. Et cette usine qui est le cœur fabrique des produits. Un produit ou plusieurs produits. On va faire une démonstration, il n'y a pas de tableau. 1. Le cœur, c'est une usine. Si le cœur fabrique des mauvaises choses, si le cœur n'est pas bon, qu'est-ce qui n'est pas bon? Les produits ne seront pas bons. Ok. Donc, le cœur, c'est l'usine. C'est pourquoi on va le voir tout à l'heure. Faites attention à à l'état de votre cœur. C'est important. Il n'y a pas d'autre principe que cela. Le cœur est important. Le cœur, c'est une usine qui fabrique des choses. Il fabrique des produits. Maintenant, c'est quoi les pensées? Les pensées, ce sont les produits. Il y a l'usine qui est la source. Et les pensées sont les produits. C'est quoi les paroles? Ce sont les agents commerciaux. Les paroles sont les agents commerciaux. Le cœur est une usine qui fabrique des produits. Quand les produits sont fabriqués, ce sont les pensées qui viennent. Maintenant, quand ça sort de ta bouche, ce sont les agents commerciaux. Parce que quand un produit est fabriqué, il faut qu'il soit vendu. Alors, sans publicité aucune, mais d'une façon, on n'a pas besoin de d'autres choses. On prend le cas de l'usine Coca-Cola. Il y a l'usine qui est là, et le produit Coca-Cola. Pourquoi Coca-Cola est très vendu dans le monde entier? Ils font beaucoup de publicité. C'est exactement le scénario. Donc, pour être la tête, pour que Coca-Cola puisse être la tête, il a fallu faire d'abord, il a fallu avoir l'usine, faire le produit, et ensuite faire une communication très, très dense, et le produit finit par s'imposer. Actuellement, Samsung est en train de faire une grosse publicité, tapage médiatique, partout, on voit Samsung, partout, à la télévision. Ils vont prendre la tête. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont mis les moyens pour avoir, pour contrôler le marché à travers la communication. Et je ne serais pas étonné que dans quelques années, Samsung s'impose comme étant une marque principale. La vie de l'homme est ainsi. Notre cœur fabrique des produits qui sont les pensées. Et ces pensées sont véhiculées à travers les paroles qui sont les agents commerciaux. Donc si on veut la tête, un, on doit avoir une bonne industrie, une bonne unité industrielle. De deux, on doit avoir des bons produits, des bonnes pensées. De trois, on doit avoir des bons agents commerciaux, c'est-à-dire des bonnes paroles. Si on l'a, on va réussir. Il faut dire amen. Voilà ce qu'on s'écrit. Et maintenant que je l'ai dit, je vais m'appuyer sur la Bible. Vous allez voir que ce que j'ai dit est correct. Prenez avec moi Psaume chapitre 49, verset 4. Psaume 49, verset 4. Je lis. La trilogie du succès se trouve ici. Ma bouche va prononcer des paroles sages et mon cœur médite des pensées intelligente. Qu'est-ce qui écrit chez vous? Psaume chapitre 49, verset 4. Oui, plein de sens. On voit quoi ici? Le cœur, les pensées et les paroles. C'est pas ça? Donc la bouche dit des paroles. Donc ce sont les agents commerciaux. Les pensées sont des produits et le cœur est l'usine. Donc si tu veux aller très loin, demande-toi ce qu'il faut. Il faut que ton cœur soit dans un bon état. J'insiste sur cela. C'est Dieu qui le dit ici. C'est pas moi qui l'ai écrit noir sur blanc. Je relis encore. Ma bouche va prononcer des paroles sages ou bonnes paroles. Et mon cœur médite les pensées intelligentes. Ma bouche dit des paroles. Mon cœur médite des pensées intelligentes. Donc quand je m'assois, ce que je médite, ce que je pense, je le déclare ma bouche. Et quand ma bouche déclare cela, ça affecte mon environnement. Vous n'avez pas vu que quand quelqu'un est triste, dans une maison, tout le monde devient triste. Tu vas voir quelqu'un, tu es joyeux, tu es très, très enthousiaste. Tu le vois bien là. Comment tu as te comporter? Tu as dit bonjour. Tu as fait un bonjour volé et puis tu as t'asseoir. Ben, tu vois son visage. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pollué l'atmosphère, il a saturé l'atmosphère par sa tristesse ou par sa méchanceté. Les grimaces parlent, vrai ou faux? Quand tu fais comme ça là, est-ce que tu as parlé? Tu as fait comme ça? T'as fait ça non? Ça veut dire quoi? Tu te garantis. On parle français ivoirien. Je te garantis. T'as pas parlé. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as sali l'atmosphère, tu l'as pollué. Et tu auras le résultat que tu mérites. Quand Dieu nous dit qu'on sera la tête, il a voulu que notre cœur puisse fabriquer des bons produits et qu'on puisse avoir les bons agents commerciaux. Dans Matthieu chapitre 17, non chapitre 15 plutôt, verset 18, regardez ça. Matthieu 15, verset 18. On va aller progressivement parce que c'est un point clé. On ne finira pas aujourd'hui, dimanche prochain, on va continuer. Si ça vous intéresse, soyez fidèles à cela. Invitez d'autres personnes. Ce sont les secrets de la vie. C'est ce que ça m'a dit qu'on a lu tout à l'heure. Maintenant, on va dire ce que le Seigneur lui-même a dit. Lui-même a dit. Matthieu chapitre 15, verset 18. Je lis. Mais ce qui sort de la bouche provient du quoi? Du cœur. Ah. Le cœur est l'usine. Les pensées sont les produits et les paroles sont les agents commerciaux. Mais ce qui sort de la bouche provient du cœur et c'est ce qui rend l'homme impur. Il continue. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur. On voit ici le cœur, les pensées et les paroles. C'est pas ça? On voit encore les trois éléments. Le cœur, les pensées et les paroles. Donc si moi, j'ai des bonnes dispositions de cœur et que je projette d'atteindre ce niveau, mes pensées vont être affectées. Mes paroles vont s'exprimer et mon environnement va être influencé. Ce qui fait que quand je dis par exemple, je donne quelque chose, je veux avoir mon examen et je crois que j'ai à moi les capacités. Mon cœur me le dit, mes pensées vont me le dire et je vais le confesser. Qu'est-ce qui va se passer? Mon comportement va être influencé. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais réussir, mais comment je vais me comporter après? Je serai amené à agir en conséquence. Qu'est-ce que je vais faire? Je me vais à 4h du matin, à 5h du matin pour faire quoi? Pour travailler. Puisque, regardez-moi, mon cerveau est conditionné par ça. Enfin, mes témoins, c'est ce que je faisais. 4h du matin, 5h du matin, jusqu'à 23h. Quand je sors, c'est pour manger. Et quand je me distrais, ne riez pas, hein, je regarde catch. Je me distrais un peu. Je ris un peu avec les comédies qui font les grimaces. Je me déstresse. Et puis, je m'en vais travailler à nouveau. Je ne le fais plus depuis 2 mois. Pourquoi? Mais parce que j'attends ce que vous voulez. Je ne me réveille plus à 4h du matin. Quand je me réveille à 4h du matin, c'est pour faire quoi? C'est pour prier. Donc, en clair, quand tu as projeté quelque chose, ton cerveau va te conditionner. Tes pensées vont te conditionner. Ta parole sera conditionnée. Ton comportement sera conditionné. Alors, tu vas engager tous les moyens. Tu vas y parvenir. Il faut dire amen avec moi. Il n'y a pas de secret. Ce sont les principes que je suis en train de vous développer ici. Alors, donc, quand vous comprenez cela, qu'est-ce qui se passe? Votre manière de voir les choses change. C'est pourquoi il est bien. C'est pourquoi Proverbe le dit, chapitre 4, verset 23. J'en ai parlé le jeudi passé. Quand Dieu déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? Mais parce que de lui viennent quoi? Les sources. Toutes les sources viennent de là. C'est une grosse bataille. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La manière dont tu conçois la vie, la manière dont tu penses doit être gardée. Tu dois faire des efforts, tu dois te battre. Fais de ton mieux pour garder ton cœur dans un bon état, Parce que de lui viennent les sources de la vie. C'est pourquoi Jésus dit, c'est pas ce qui entre la bouche qui sous l'homme, c'est ce qui sort. C'est le Fils de Dieu même qui a dit ça, qui sort. C'est pourquoi il écrit aussi que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est lié, on voit tout ici. Donc si ton cœur est dans un bon état, tu es déjà dans les bonnes dispositions pour réussir. Alors, voyez, tes pensées seront alignées. C'est pourquoi on parle des pensées positives, des paroles positives. Mais ça vient d'où? Ça vient du cœur. Donc, quand ton cœur est en bon état, le matin, quand je me réveille, je vais réussir. Tu as ça en tête. Si quelqu'un veut devenir extrêmement riche, quoi que nous sommes à l'église, on peut en parler, ton comportement sera en conséquence. Tu vas rencontrer des gens qui sont tes modèles. Ou bien, on dit les oiseaux d'un plumage volent ensemble. Qui s'assemblent, ce... Les saints. Ce sont les proverbes païens, mais ça nous instruit. Donc, quand tu as ça comme idée, comme pensée, les choses changent radicalement de la manière dont tu dois te comporter. C'est pourquoi, chers frères et chers soeurs, je vous en supplie. Si nous voulons que la Bible s'applique à nous, donnez raison à Dieu. Changeons notre manière de concevoir les choses de la vie. Ayons un cœur pur. C'est pourquoi on a chanté ta sainteté. Que Dieu nous donne un cœur pur. Oh Dieu, garde-moi pur. Garde mon cœur pur. Il dit, déchirez. Qu'est-ce qu'il écrit? Ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. Si le cœur est en bon état, je peux vous le dire, les circonstances du succès sont déjà réunies. Maintenant, quelqu'un peut dire, parce que je sautais un tout petit peu pour avancer sur quelques aspects. Quelqu'un peut dire, mais pasteur, si mon cœur est en bon état, que j'ai les bonnes pensées, que j'ai les bonnes paroles, est-ce que j'ai reçu automatiquement? Pas forcément. Mais écoute-moi très bien. Comme ton cœur, et il y a un théologien qui appelle ça le positionnement de ton âme. Comment ton âme est positionnée? Est-ce que ton âme est positionnée sur les bonnes paroles, les bonnes pensées de Dieu et tout cela? Et quand vous avez ça, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à croire en vos capacités. Écoutez bien ce que Dieu dit. Il a dit qu'il te soit fait selon quoi? C'est la foi ou ta foi? Il y en a qui disent la foi. Et c'est quoi? C'est ta foi ou c'est la foi? Ah! Ta foi! Donc chacun a une dimension de foi. Écoutez-moi très bien, que de la parole de Dieu. On verra ce dimanche prochain. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit par la puissance qui agit en nous. La puissance de quoi? Par la puissance qui agit en nous, Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Donc la foi est la puissance qui agit en nous. Donc, chacun a une dimension de foi. Donc, en fonction de la dimension de foi, tu vas aligner ton caractère, ton comportement, tes attitudes, tes pensées, tes relations, ton investissement et ton centre d'intérêt. Ton centre d'intérêt changera en fonction de là où tu veux arriver. Donc, en fait, le succès est réservé à tous. Quand Dieu dit, tu seras la tête, c'est possible pour chaque enfant de Dieu dans son domaine. Tu dis pas amen. C'est vrai. Le reste, c'est que l'investissement que tu fais, les efforts que tu fournis, l'action. Mais on peut passer à l'action si en soi-même, on n'est pas convaincu qu'on peut réussir. Quand Dieu dit, tu seras la tête, c'est de ça qu'il parle. Maintenant, quand bien même que j'ai ces choses à moi et que j'ai une bonne compréhension des choses de la vie, il va arriver que je peux échouer. Mais en réalité, quand j'ai des bonnes dispositions, quand j'ai une bonne attitude, comme on dit souvent couramment, je prends l'attitude. J'ai une bonne attitude. Je sais que pour avoir tel examen, il faut travailler dur. Tu fais tes fiches. Si tu veux être bien noté au travail, tu es rigoureux sur toi-même. Il y a un certain nombre de choses que tu adoptes. Mais il peut arriver que, malgré cela, on n'a pas de manière immédiate les réponses souhaitées. Comment dans ce cas, on doit se comporter? C'est ce qu'on va aborder et puis on va s'arrêter là. Et je vais énoncer quelques principes et puis vous donner un exemple et ça peut vous aider. En réalité, pour une personne qui a une bonne vision, l'échec n'est pas un problème. Vous ne dites pas amen. J'ai dit, pour une personne qui a une bonne vision, qui a la vision du succès, qui a la vision de l'élévation, qui a la vision pour être la tête, l'échec n'est pas un problème. Dis à ton voisin, l'échec n'est pas un problème. Je veux même aller plus loin. L'échec n'existe pas. Dis à ton voisin, l'échec n'existe pas. Ça peut vous choquer. Écoutez-moi très bien. Quand ton âme est bien positionnée, pour employer un thème théologique, et que apparemment tu as connu un échec, en fait, ce n'est pas un échec en soi. Dieu t'amène à changer de méthode. Tu ne dis pas amen. On n'a pas le temps, mais j'allais prendre la Bible, j'allais vous montrer. Quand Israël a échoué contre Haï, c'est pas ça? Quand ils ont échoué contre Haï, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés se répentir. Et Dieu dit à Josué qu'au milieu de vous, quelqu'un a péché. Réglez le problème du péché et moi, Dieu, je vous donne le succès. Quand le problème du péché a été réglé, est-ce que le problème du succès? Acclame le Seigneur. Je dis, la Bible est un livre complet. Donc, l'échec n'était pas un problème. Il fallait changer de méthode. Donc, quand tu échoues dans un domaine, Dieu te dit, change de méthode. Tu peux être brillant, mais tu n'as pas eu la bonne méthode pour travailler, alors tu as échoué. Donc, l'échec n'est plus un problème. Quand une personne a les bonnes pensées, qu'elle a la vision pour réussir, rien n'est jamais définitivement perdu. Deuxième principe de la vie. Il y a 12 que j'ai noté. Premier principe de la vie qu'il faut comprendre, dans la vision toujours, l'échec n'est pas un problème. Il faut changer de méthode ou d'approche. Deuxième chose, deuxième principe, rien n'est jamais définitivement perdu. Jamais perdu. On a vu ça avec qui? Avec Lazare. Il dit, il est déjà mort. Le Seigneur dit, il sent déjà. Dieu dit, c'est bon comme ça. Lazare va vivre. Aucune situation n'est définitivement perdue. Ce qui peut être perdu pour toi n'est pas perdu pour Dieu. C'est apparemment, c'est perdu, mais derrière le succès. Quand vous avez ces principes en vous, vous marchez avec assurance. On n'a pas le temps, mais je vais les énoncer rapidement. Troisième principe, avec Dieu, tout est possible. C'est vrai ou c'est faux? Avec Dieu, tout est possible. Pourquoi avec Dieu, tout est possible? Dieu, c'est l'infiniment puissant. C'est pas ça? Qui vient se multiplier, qui vient se mettre de mon côté. Et comme Dieu est l'infiniment puissant, ce qui était impossible devient possible, puisqu'il est infiniment puissant. C'est pourquoi il écrit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand tu es en Christ, avec Dieu, tout est possible. Tu as ça dans ton cœur et tu marches en fonction. Quand je dis, on va bâtir un temple, on va le bâtir. Quand je dors, je me réveille. La même manière, j'ai commencé à grouiller pour faire l'agriculture, j'étais major là. Je suis en train de grouiller comme ça pour le terrain. C'est pas comme on dit, pour moi, on va s'en sortir. Parce que j'ai pris l'attitude qu'il faut, le langage qu'il faut, les relations qu'il faut, et ça va marcher. Quatrième principe, tout événement doit nous servir. Tout événement, bon ou mauvais, doit nous servir. La Bible déclare que Dieu fait tout pourquoi? Il fait tout pour un but. J'ai dit, Dieu fait tout pour un but. Tout événement doit nous servir. Je suis désolé, y compris la perte d'un être cher. Ça fait mal, c'est vrai. Tout événement doit nous servir. Tout. Pourquoi? Mais parce que quand un événement arrive, il faut savoir tirer les leçons des événements, des situations. Et chaque événement nous accorde une expérience nouvelle. Chaque événement, chaque situation nous donne une expérience nouvelle. Or, c'est avec les expériences qu'on évite les erreurs du passé. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Donc, vous voyez qu'on a le chemin pour arriver et on peut y arriver. Cinquième ou sixième principe que je vais annoncer. Il faut savoir se concentrer sur les résultats positifs. Se concentrer
sur les résultats positifs.
Dans les tests psychosomatiques, on présente des fois un verre à quelqu'un, une bouteille. On lui dit toujours, mais je vais quand même le dire, parce que tout le monde le sait. Et on le remplit de moitié. On dit, monsieur, quel est l'état du verre ou de la bouteille? Tu as dit quoi? Il dit, les 3, 4, 10, 12 jours, c'est à moitié vide. Quand tu dis ça, le monsieur dit, bon, on peut travailler ensemble. Parce que non, tu es négatif. Tu ne vois que le vide. L'autre dit là, le verre est à moitié plein. Il dit, voilà. Toi, tu vois ce qui est plein, l'autre voit ce qui est vide. Tu vas prendre qui dans ta société? Mais c'est important à connaître. La manière dont vous regardez les choses, il faut se concentrer sur les résultats positifs. Ce qui est bien en vous, concentrez votre énergie sur ce qui est bien en vous, sur le potentiel que vous avez. Ne vous plaignez pas de votre nez qui est tordu. Entends, tu as les jolies orteils. Soit, il m'excuse, tu es un peu trop large, mais tu as un joli sourire. Concentre-toi sur ce qui est positif. Si tu n'es pas clair que tu es noir, il y a autre chose qui est en toi qui attire les gens. Il me dit, tu as peut-être un bon derrière. Pardonnez-moi les formes, mais bon. Concentre-toi sur ce qui est positif. Tu as l'église. Le pasteur transpire comme moi. Tu te plains pour ça. Reconnais que quand même que, bon, il prêche bien. Concentre-toi sur ce qui est positif. Quand on se concentre sur ce qui est positif, on réussit toujours. Toujours. Ah, ça ne va pas ici. Oh non, mais ce n'est pas possible. Non, mais la vie est trop dure, mais je ne comprends pas le monsieur. Le monsieur, il est ce qu'il est. Concentre-toi sur ce qui est positif. Lui, au moins, il ne t'insulte pas. Si tu divorces, tu vas chez quelqu'un, il va te gifler le matin, il va t'insulter. Tu vas dire, Robert était bon. Robert dit, c'est bon comme ça. Pour que tu sois heureux, concentre-toi sur ce qui est positif. Septième principe, chaque problème a une solution. Et chaque porte a sa clé. Tu ne dis pas amen. J'ai dit, chaque problème a une solution. Et chaque porte a sa clé. Jésus dit, je suis la porte et je suis la clé. Jésus dit, je suis la porte et je tiens les clés. Chaque problème a une solution et chaque porte a sa clé. Et si tu n'as pas trouvé la clé, Jésus dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. En plus, il a dit, je te donne les clés du royaume. Donc, quand tu es devant un mur, devant un problème qui paraît impossible pour toi, sache que ce problème est impossible pour toi, mais il y a une solution. Chaque problème a une solution. Je suis en train de vous dire comment avoir une bonne vision. 9e ou 10e, je ne sais plus trop. Avant, dernier point. Pensez que vos efforts vont porter du fruit. C'est quel principe de la Bible? Ce que tu sèmes, tu vas le moissonner. Sache une chose, tes efforts, comme on dit, j'ai appelé un module là. Choco na choco, tes efforts vont porter du fruit. Tous tes efforts. C'est pourquoi persévère dans la vie, dans ce que tu fais. C'est Dieu sur toi. Continue à le faire. Tes efforts vont porter du fruit. Quand tu as ça comme attitude, tu vas de l'avant. Et le dernier point, vois dans le désert un jardin. Alléluia. Vois dans ton désert un jardin. Que Dieu dit? Il dit, je transforme le désert en verger. C'est écrit noir sur blanc. Je transforme le désert en verger. Quand tu vois le désert, tu peux voir un jardin. Quand Dieu dit, je transforme le désert en verger. Gloire à Dieu. Donc, l'échec en lui-même n'est plus un problème. Donc, quand on est bien aligné sur notre âme, on peut conséquemment aller de l'avant et puis réussir. Est-ce que tu as compris? La deuxième chose que je vais rappeler avant qu'on s'arrête, compris. Ne voyez jamais en vous, autour de vous, l'échec comme un problème. Jamais. J'ai le témoignage de deux personnes que vous connaissez, pas physiquement, mais dans l'histoire, on a appris le témoignage. Et ça, j'ai lu hier, je vous donne le témoignage. L'ampoule a été fabriquée par qui? L'ampoule électrique a été fabriquée par qui? On a appris ça à l'école. Thomas Edison, c'est pas ça? On a appris ça à l'école primaire. Non, en quatrième ou cinquième, en physique. Est-ce que vous savez combien de fois Thomas Edison a essayé l'ampoule? 9999 fois. 9999 fois, il a essayé l'ampoule électrique. On lui a demandé, est-ce que tu as échoué? Il dit, non, je n'ai pas échoué. J'essaie seulement une autre méthode. Et à la 10 000e fois, l'ampoule est sortie. Est-ce qu'elle avait échoué? Non. J'ai dit, l'échec n'est pas un problème. Ce n'était pas un chrétien. On pleure sur nos échecs. Ce n'est pas un problème. Et je donne un exemple d'un homme que vous connaissez, Abraham Lincoln. Ça, j'ai lu hier. Écoutez ce qui lui est arrivé. Il a connu la faillite dans sa vie quand il avait 31 ans. La faillite dans ses affaires. À 32 ans, il a été battu aux élections législatives aux États-Unis. À 34 ans, il a encore fait faillite. Parce qu'après, il s'est relevé, il a fait faillite encore à 34 ans. À 35 ans, il a perdu sa copine, sa petite amie, sa fiancée, elle est morte. À 35 ans. À 36 ans, il a connu une dépression nerveuse. À 38 ans, Il a été battu aux élections locales, notamment municipales. À 43 ans, il a été battu aux élections pour le Congrès américain. À 46 ans, il a été encore battu. À 48 ans, il a été encore battu. À 55 ans, il a été battu aux élections du Sénat. À 56 ans, il n'a pas pu s'inscrire pour être vice-président. À 58 ans, il a été battu encore aux élections pour le Sénat. À 60 ans, il a été élu président des États-Unis. À 60 ans. Est-ce qu'il avait échoué? Non. Tu avais estimé que c'était petit pour lui être sénateur ou être congressiste. Il fallait qu'il soit président des États-Unis. Et c'est l'un des présidents les plus célèbres que les États-Unis aient connu, Abraham Lincoln. Est-ce qu'il avait échoué? L'échec n'est pas un problème. Dis à ton voisin, l'échec n'est pas un problème. Gloire à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, il remplace l'année dévorée. Gloire à Dieu. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Et puis on va prier. Quelle est la vision que tu te donnes de la vie? Comment se trouve l'état de ton cœur? Comment tu regardes les situations chaque matin? Avec quelles pensées le soir tu te couches? Est-ce que tu dors avec des pleurs, avec des larmes? Satan se réjouit quand il voit nos larmes. Il se nourrit de nos larmes, de nos pleurs. Les pleurs, les larmes ne changent absolument rien. Que tu pleures pas, ça ne change rien. C'est vrai que ça te soulage. C'est vrai, ça te soulage. Et puis après, dis à Dieu qu'il change ta vision de la vie. Qu'il change la vision de ta vie. Dis à Dieu ce matin, change la vision de ma vie. Change la manière de concevoir, la manière de penser, la manière de comprendre les choses doivent changer. Il faut mettre une vision haute. Il faut avoir un haut standard de vie. Un haut standard de pensée. Un haut standard de réflexion. Un haut standard de modèle. Tu peux y arriver, c'est possible. C'est fait pour les hommes. Fait de chair, de sang comme toi et comme moi. C'est possible pour toi et ta descendance. Ce matin, rends grâce à Dieu. Dis à Dieu, change ma façon de voir. Change mes pensées, mon langage. Change mon cœur, change mon langage. Accorde-moi de voir grand. Je veux aller grand. Cherche des choses confortables. Il faut avoir des bonnes relations, des bonnes amitiés. Fréquente des hommes et des femmes qui parlent bien, qui parlent juste. Sois à leur image. Paul dit, soyez mes imitateurs. Cherche à imiter ceux qui réussissent, ceux qui progressent, ceux qui font de l'avant, ceux qui montent. Et non pas ceux qui sont derrière, qui insultent, qui critiquent, qui maudissent. Dieu te change ma façon de comprendre les choses. Que ta vie soit une vie joyeuse. La Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Il a dit, ayez en vous les pensées qui étaient en Christ. Les pensées qui étaient en Christ. C'est ce qu'il a écrit. Il dit que tout ce qui est bon, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Oh, ce matin, que Dieu change nos pensées, il change notre vision, il change nos langages, qu'on puisse dire, Seigneur, je te remercie, parce que ma manière de penser les choses change. Je te remercie parce que tu le fais. Rends grâce à Dieu ce matin, dis, Seigneur, merci, parce que tu changes ma façon de penser ce matin. Oh, Dieu, bénissons ton nom ce matin. Je